The French Connection.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 299 de la French Connection. Cette semaine, c'est le retour de Caro. Ouais!
Salut!
Salut! On a Jacques. Salut Jacques.
Hello tout le monde.
On a Richer. Salut Richer.
Bonjour.
Et Monsieur Francis. Salut.
Bonjour.
Bonjour. Yes. Dans nos shameless plugs, ben, les inscriptions à Hackfest, Polar, formation sont toujours disponibles. Inscrivez-vous, c'est le temps. Il y a plein de belles formations, dont celle avec Francis, qui a déjà pas mal de monde dedans. Fait que ça, c'est cool. Et ben oui, cette année, les horaires devraient sortir sous peu. Le dernier call for paper, c'est cette semaine. Donc, on va avoir pas mal tout l'horaire de fête la semaine prochaine. Ça devrait sortir sous peu. Donc, c'est cela. Le CTF est encore 24 heures. Et on a plein de beaux villages encore cette année. À voir si on aura une voiture ou pas. Là. On espère que oui. C'est pas facile. Village de Caro, oui.
Ben, ça dépend. Il faut que les gars ils me disent s'ils acceptent mon call of paper ou pas. Parce que là, je vais le splitter différemment.
T'as envoyé un call for paper?
Oui.
Nice. Je suis pas au courant de tout. Super. Ben ouais, je vais voir ça cette semaine. Je pense que le meeting est dans une ou deux journées.
En tout cas, moi et Steve, on a envoyé un pour la Hackfest. Et là, avis à tout le monde qui écoute la French Connection. Moi et Steve, on a oublié de soumettre pour le Polar. Il n'y a comme plus de place. Fait que s'il vous plaît, écrivez aux gens de Polar pour vous plaindre. Dire qu'il faut libérer des places, il faut extensionner Polar. S'il vous plaît, supportez-nous.
Supportez-nous. Ça fait juste 6 mois que c'est géré, ça.
On a complètement oublié ça, mais là, on l'a mis au moins pour la Hackfest.
Mais si on trouve un spot, on s'organisera. Là. Des fois, il y a des chokers de dernière minute.
Francis, tu as juste à trouver qui présente. Là. Je suis sûr que tu as une gang de chums. Il pourrait avoir un accident à quelqu'un. Là. Puis là, il va se libérer une place.
C'est ça, public, c'est correct.
I said that out loud. Shit.
Damn! Bon, Caro, parle-nous de ton super AI.
On s'en sort pas avec ce mot-là. Hein? C'est non. Dans tout puis dans rien, mais bon, je vais pas parler de l'AI de façon générale. Je vais l'orienter vers un sujet qui m'intéresse, le domaine de l'emploi. Et forcément qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tout ce qui est fraude à l'emploi s'est remis au goût du jour. Il y a 10 ans, des deepfakes d'entrevues, ça n'existait pas. J'en ai déjà parlé dans la French Connection. Là, je me suis intéressée récemment sur les CV. Les CV avec des prompt injection dedans qui, au final, truquent les façons que les ATS, qu'on appelle des Attraction Talent System. Donc, quand, dans une démarche de recherche d'emploi, vous envoyez votre CV dans un logiciel, ça le scanne dans un système qui est souvent un agent AI qui est intégré à tout ça. Pourquoi j'ai l'impression d'être toute seule en ce moment?
Parce que c'est toi qui parles, puis on a le truc qui parle.
OK, j'avais juste peur que ça ait planté. OK, c'est juste que j'avais un spotlight sur moi. Wow! Oh
oui, je les garde, c'est toute l'attention.
Ça fait des beaux clips.
Hein?
Ça fait des meilleurs clips.
Donc, l'ATS reçoit le Application Tracking System, pardon. Reçoit le CV et là, ça prend des buzzwords pour que le système reconnaisse que oui, le profil est pertinent à tel type d'emploi. Puis un coup que le premier, ce qu'on appelle screen, est fait par généralement un outil d'intelligence artificielle, un agent AI, peu importe comment le système en arrière est construit, ça va se rendre entre les mains soit d'une équipe d'attraction de talent ou soit dans les mains d'une personne des ressources humaines. Là, ce qui arrive, c'est que quand les prompt injections sont mis dans les CV, ça fausse les candidatures. Donc, des candidats vont être surqualifiés sur des postes, vont prendre finalement la place d'entrevue de quelqu'un qui était vraiment qualifié pour le besoin. Est-ce que c'est la plus grande des fraudes? Non, je considère encore que le deepfake, c'est ce qui est le plus traumatisant récemment. Mais n'empêche que c'est quand même un enjeu. Il y a une étude récemment, et là, j'ai oublié le nom, j'ai oublié de me le marquer, mais c'est sur mon post LinkedIn, fait que je vais aller me faire des impressions sur mon post LinkedIn. Allez me chercher Caroline Boulet Talenti, c'est la dernière publication que j'ai faite en date du 25 août. Cette étude-là démontre que sur 200 000 CV réels filtrés, il y en avait quand même 2 % qui avaient des prompt injections dedans. C'est quand même un phénomène qui est à la hausse, que ça fait 10 ans que je fais du recrutement, je ne voyais pas ça il y a 10 ans. Là. Essentiellement, pour toute personne qui va être impliquée dans un processus d'emploi, que ce soit de la partie qui recrute ou la personne qui veut se faire recruter, ça devient une guerre AI, un CV rédigé par Léa.
Ben c'est ça l'affaire, là. Si c'est pas fair d'un bord, c'est pas fair des deux, fait que c'est fair.
Oui, mais non. Right? Oui, mais non, parce que
l'AI est pas bon, puis là, il lit du AI, fait que n'utilise pas d'AI. Right?
Ben, déjà, à la base, moi, je suis vraiment pas pro... Oui, c'est le fun, les outils qui facilitent notre vie, mais que ce soit des gros systèmes qui track des profils... C'est pas tout le monde qui sait faire un CV. Là, tu mets ton CV, mettons, dans... Je veux pas nommer de nom parce que les diffamations explosent de partout par les temps qui courent, mais mettons un gros logiciel de gestion d'emploi. Tu mets ton CV dedans. Si t'as pas les petits buzzwords qui sont pas rattachés à la description de poste, ton CV popera jamais. Puis ce qu'on connaît en plus, la réalité du terrain, pour moi, parler avec des clients quotidiennement, des gestionnaires d'embauche, entre le moment où je prends un poste avec une description de poste jusqu'au moment où je le comble, ce poste-là, là, la description de poste, elle doit avoir changé à peu près 6 fois, minimalement. Fait que, faut en plus que l'équipe d'acquisition de talent qui gère le logiciel en arrière remette toujours l'ATS au goût du jour ou le remette à niveau pour s'assurer que ça reflète encore la description de poste. C'est un gros foutoir, cette affaire-là. C'est pour ça que les chasseurs de tête, on est pertinents.
Oui, la première fois que j'ai vu ces logiciels-là, il y a à peu près 6 ans, là, quand je devais me chercher un emploi, j'habitais en Alberta à cette époque-là, puis là, je suis tombé là-dessus. Là, ça faisait 25 ans, je n'avais pas eu à appliquer pour un job, là, j'avais ma compagnie, puis là, c'est quoi ces affaires-là, ATS, je regardais ça. Écoute, c'est la plus grosse boîte au monde, cette affaire-là. Là. C'est une stupidité monumentale. Là. Je ne sais pas qui a inventé ça.
C'est un peu ça ma question. Pourquoi tu aurais besoin d'un système comme ça, check les CV? Ouais. Au pire, tu peux avoir un système qui fait une recherche dans les CV, mais tu n'as pas besoin d'intelligence puis plus que ça. Là.
Non.
Pourquoi, oui?
À ton dernier job, là, quand tu affichais un poste sur LinkedIn, Pat, tu en recevais combien de CV?
Bien, c'est ça mon point. Je n'avais pas besoin de l'AI. Je n'en recevais 800 en 2 jours. Puis on fermait ça right there.
Tu es screené les 800?
Non, mais j'utilisais des mots de recherche. Je n'avais pas des AI dedans qui me filtraient de la cochonnerie. Là. Mais si j'avais besoin de quelqu'un en AppSec, ben, je cherchais quelqu'un avec les 5-6 mots qui fait référence à AppSec. Puis tu sais, je trouve, pour vrai, il y a du monde qui applique sur n'importe quoi. J'avais des mécaniciens et des infirmières, là, sacrément. Fait que tu sais, ça, c'est con. Mais dans le monde qui appliquait sur du AppSec qui était en informatique, il y en avait plein, là. Mais il n'y en a aucun, parce que nous, c'était basé sur expérience. C'était pas c'était des rôles seniors. Mais si tu n'as pas le mot AppSec, ou tu sais, c'est marqué en gros, on travaille AWS, tu n'as pas le mot AWS ou Amazon ou whatever, service, quelque chose, ben next. J'ai pas besoin d'AI pour ça qui va à prompt injection. Puis malheureusement, le problème inverse, c'est que le monde a commencé à faire leur CV en AI, fait qu'ils ont tout l'air beau. Fait que là, ils se sont, à un moment donné, là, dans tous ces 800-là, après plusieurs jobs, ben, j'avais bien beau chercher, la moitié, au lieu d'une dizaine, c'était rendu presque la moitié des 800 qui faisaient du sens.
Ouais.
Puis les AI ou pas, ça vient inutile. Fait que là, il faut que tu ailles dans les trucs pointus, là, dans les petits détails.
Ça aussi, c'est un phénomène qui m'est jamais arrivé de passer de recevoir des CV. Le CV, il est beau, là. Il fit.
C'est ça.
Je prends la personne en entrevue. Ça me dit que... deux exemples à vous donner, genre. Puis c'est des exemples qui sont arrivés dans les 2 dernières semaines. Je travaille un poste de SOC niveau 3. Fait que j'ai besoin d'un L3 senior qui a travaillé dans des équipes SOC. Je blue team à côté. Et là, je parle à la personne au téléphone, fait que je en Teams, puis je lui demande, tu sais, dis-moi, c'est quoi le CIEM le plus récent avec lequel tu as travaillé? Il me dit, le quoi? Je le CIEM. Il a fallu que j'y explique c'était quoi un CIEM.
Lex. C'est ça.
Deuxième cas, je me cherche...
Trappe à crocodile, tu sais.
J'avais besoin d'un expert Active Directory pour pouvoir faire toute la gestion d'MS365 puis un paquet d'affaires anyway. Fait que j'ai dit, OK, super, ton expérience en AD est vraiment cool. Parle-moi un peu des GPO que tu as faites récemment, ces choses-là. Ils ne savaient pas c'était quoi un GPO. Il a fallu que j'y dise c'était quoi un GPO. C'est moi la recruteur. Non, mais là, moi, je suis assez technique.
Les Jeux olympiques, c'est pas tout le monde qui connaît ça, les Jeux olympiques.
Non, mais son CV, il y avait ça dedans, pareil. C'est ça le bug. Oui,
exact, exact. Parce que
oui, c'était pas vrai, là, on s'entend. Hein?
Ben non, c'est des trucs de base, là. T'sais.
Fait que, tu sais, la solution qu'on a trouvée, c'est plate, là, était humaine, c'est que le recruteur qui nous aidait, c'était cette personne-là, le filtre.
Ouais.
Fait que c'était des 5-10 minutes là, avec les mêmes questions que tu viens de dire. Puis quand ça ne marchait pas, c'était OK, désolé, ça ne marchera pas, next. Ouais. Fait que là, c'était plus une question des 20 premiers. Il en passait 20, il en restait peut-être un ou deux. Il en repassait 20 une couple de jours après. Puis c'est comme ça qu'on réussit à en avoir 5-6 en entrevue.
Absolument. Puis ça, en plus, c'est ça. Un autre truc que j'ai vu récemment, on travaille généralement en TI, là. On travaille tous avec 2-3 écrans. Moi, j'en ai 3, vous en avez probablement plus. Je fais des entrevues avec des gens, puis je me prépare mes questions techniques. Puis quand je suis assez technique, je vais aller demander à Claude, OK, là, je fais ce poste-là. Donc, récemment, j'ai travaillé Dynamics 365, le module FNO. Je dis, je touche jamais à ça du D365, c'est pas mon pain quotidien, fait que j'ai besoin de savoir comment challenger les gens sur la configuration, nanana. Fait que je demande à Claude, explique-moi-le, puis donne-moi des questions à poser. Puis non seulement je veux que tu me fasses des questions, mais mets-moi les réponses puis les mots que je suis censée entendre dans les réponses. Là, je fais l'entrevue avec la personne. La personne, au lieu de me regarder droit devant sa caméra, elle me regarde de profil, puis je vois quand que je pose une question, elle tape la question, puis elle lit des réponses. Nice. Hey, sais-tu comment c'est malaisant en entrevue de dire à quelqu'un, je m'excuse, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te tourner puis te concentrer sur ta caméra? Je veux dire, bro, tu cherches un job, je suis pas une prof de maternelle, là. Pourquoi faudrait que je te dise de... En tout cas, fait que c'est...
Mais t'es bonne, moi, j'aurais juste
raccroché. J'aurais fini ça, là, moi aussi. Là. Bye. Hey, mon chum, c'est obligé de chercher les réponses dans Claude, là. Ciao, next.
Ben, Claude, ChatGPT, peu importe ce qu'il utilisait. Moi, je l'utilise.
Même Google, ça n'a pas d'importance.
C'est pas grave de me regarder dans les yeux et répondre comme ça, là. C'est parce que. Non.
Puis, ouais, mais là, attendez un peu. Moi, là, t'es mort. Parce que je vais arrêter ça, votre affaire, là. Non, mais première des choses, ce qu'on voit là avec les AI, on le vivait avant avec les anciens CV.
Ah oui, oui.
100%, c'est juste
pire. Ce que je veux dire, c'est. Oui. Faire des recherches sur c'est qui le recruteur, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il aime pas, puis tisser des liens avec lui avant l'entrevue. Ça, je veux dire, c'est des méthodes d'ingénierie sociale qui marchaient avant, puis on le faisait, là, okay? On jouait, il y avait une game à jouer. Et si, ben là, c'est sûr que les outils ont changé, mais on est capable de le faire. Moi, je reviens à arrêter de faire des questions d'entrevue par team. Arrêtez ça, Christy. Ouais. Faites des entrevues en personne.
Non, parce ça, que là, ça marche pas tout le temps de même, Francis. Tu peux pas toujours faire ça, là.
Ouais, mais Caro, écoute bien.
Il est plus en 80, là, mon Francis.
Celui qui regarde comme ça, là, il est facile à spotter.
Oui, lui, il est out.
Il est out, mais c'est facile de lire au travers du personnage. Mais moi, je peux très bien être en entrevue avec Caro, OK? On le dit, j'ai plein d'écrans, là. Moi, j'ai un télésouffleur. Fait que moi, dans mon écran ici, là, quand je regarde là, je peux mettre du texte qui défile, c'est mon télésouffleur. Je peux très bien avoir ma conjointe qui est à côté, qui écoute les questions, elle tape à mesure, puis les réponses apparaissent dans le télésouffleur. Ouais. Jamais tu vas t'en rendre compte. Alors là, la question, aussi, c'est... Ben oui, ouais, fait que là, on...
Mais c'est facile
on laisse passer compte. Quoi? On laisse passer les pires crosseurs? C'est... Mais
non, moi, je suis là pour faire le premier screen. T'sais, c'est ça. C'est pas moi qui engage. Au bout de la ligne, moi, je suis mandatée par mes clients pour faire la première présélection. Après ça, quand je les embarque dans le processus de mes clients, souvent, il va y avoir une première entrevue en visio. Quand ce n'est pas des postes qui sont 100% remote, la deuxième est en présentiel. On fait visiter les bureaux, nanana. Mais là, les gens veulent des postes en remote, ne veulent pas de bureau. Il y a cet enjeu-là aussi. Mais moi,
ce que je dis, c'est qu'ils se déplacent les au moins une fois. Là. On a vu
seulement
Oui, mais au moins une fois. Mais on a vu des postes, même au gouvernement, qu'il n'y a jamais eu, de rencontre en présentiel. Puis tu te dis, ce gars-là, qui prétend travailler d'Alma, tu lui as donné tes mots de passe de tous tes systèmes. Ben oui, il a passé le processus. Tu sais-tu s'il existe, ce gars-là? On l'a rencontré.
Mais pas juste ça, que tu as vraiment une bonne vision de la personne en réel. Puis tu sais, même pour les rôles que j'ai travaillé dans le fond des US, la dernière entrevue était aux US. Là.
Payez un billet d'avion, c'est pour aller venir, oui. Là, je veux dire. Là,
toujours besoin. Là,
dans, à la dans dernière autre... entrevue, oui. Ah,
dans ça... mon autre compagnie, dans mon autre vie, là, quand j'engageais, on recevait à l'époque 300-400 CV faciles. Papier, là. Hein? C'est pas tout le temps du courriel. Il y avait des PDF, ouais. Du courriel, mais bien souvent, il y en a qui envoyaient du papier. Ah. On gardait tous les CV. Puis, premièrement, moi, je cherchais du style. Parce que la personne a fait un effort, là, où ils ont juste pris une page blanche dans Word, Times New Roman 12, là, puis ils ont tapé une coupe d'affaires, tu sais. Ouais. Bon, moi, que tu as fait un effort, tu es méticuleux, tu veux la job, tu as de l'ambition. C'est ça, c'est un de mes premiers critères. Mais je vais te dire, Francis, tu as absolument raison. Quelque part, mm-hmm. Là, je comprends qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde, on veut filtrer via Teams en premier. Puis après ça, tu rencontres la personne. Puis moi, je te dirais, là, quasiment tous les gars que j'avais engagés, tous les gars, les filles que j'ai engagés là, dans mon autre compagnie, au bout de 90 secondes, je savais là, si tu avais.
Ah, c'est fou, hein? C'est fou. Oui, ouais. 100%. C'est rarement le skills. Ben, des fois, l'entrevue après, tu vas savoir, ouais, là, tu n'as aucun talent dans ce que tu as besoin, mais aucune connaissance. Mais les 30 premières secondes, généralement, tu le sais. Là. Mes entrevues de 30 minutes, c'était un deuxième filtre. Une minute, j'étais faite.
Ben, ouais, tu vas-y. Vois, ça, on appelle ça un biais cognitif, puis c'est pour ça que 100%. La personne en rencontre plus qu'une
c'est
personne.
C'est pour ça que ça prend du monde comme Caro.
Tu peux avoir un coup de cœur avec, mais ça ne veut pas dire que ta collègue qui va travailler directement avec ce projet.
100%, mais...
Des gens se plaignent. Les processus sont trop longs. 4-5 étapes pour rencontrer 2-3 personnes. Ben ouais, parce qu'il y a trop de biais cognitifs maintenant impliqués dans une recherche d'emploi. Là.
Mais pas juste
c'est vrai,
ça.
C'est vrai, puis on peut passer à côté des bons candidats.
Oui, mais en même temps, si la personne ne fit pas avec toi, elle ne va pas dans ton équipe, biais ou pas. Là.
Elle ne va peut-être pas dans ton équipe. Puis ça marche. C'est ça, elle va peut-être pas dans ton équipe, mais peut-être qu'elle peut se placer dans une autre équipe, peut-être qu'il peut, tu sais, là, ça dépend
de
comment
le processus, ça dépend de la grosseur des équipes. Là.
Exactement,
ouais.
Exactement.
Ouais.
Mais tu sais...
Ben, c'est comme quand je vous ai rencontré. En bout de 30 secondes, mon idée était faite, mais je me suis dit, bon, peut-être ça va toffer.
Moi, c'est en tout cas une affaire qui est certaine. C'est sûr que si je passais en entrevue, Félia, je l'engage. J'y trouve quelque chose à faire.
Ah, oh, t'as pas de billet, toi. Il n'y a pas de billet. C'est un billet reproductif, ça. C'est pas cognitif, ça, cette affaire.
Ça, je manque la référence, là.
Oui.
Ah, ouais, ça manque à ta culture, là.
Ah, tu connais pas Félia, Caro?
Ouais, on
t'a mis dans les show notes dans le chat, Félia.
Oh, tu dois rencontrer Félia. Félia, c'est un monsieur qui a parti des vidéos qu'il met sur Facebook.
Ah, ben oui. Non, mais je les vois passer aussi. Là, Steve Waterhouse, il met tout le temps. Il en fait, son fil d'actualité, c'est juste ça maintenant. Là.
C'est Félia, bon, ben c'est ça.
Ouais, mais tu sais, même en remote, quand tu as des bonnes questions qui sont organisées par plein de monde pour enlever le plus de billets, évidemment, tu as ton biais, que tu t'entends bien que la personne. Mais tes questions, il faut que tu les notes objectivement pareil. Mm-hmm. La majorité de mes filtres de rôle technique, c'est une question technique. Que si tu connais le domaine, elle est facile, la question. Puis je te dirais, 90% des entrevues, le monde cherche, n'est pas sûr, puis fail totalement. Puis, j'ai eu du monde qui ont fait l'entrevue, ils disent, ben voyons, c'était bien trop facile, ça ne peut pas être ça ta question. Je dis, ouais, mais c'est parce que tu sais de quoi tu parles. C'est sûr, ça a l'air facile.
C'est facile parce que tu cadres avec, là, tu fites avec. Là. Mm-hmm. Comme le soulier de Cendrillon, à un moment donné, ça fit ensemble.
Oui, puis là, ben, sa job à cette personne-là, c'est de réussir les questions beaucoup plus complexes après. Là.
Ouais, mais là, tu étais dans une structure où il y avait un processus vraiment bien établi. Oui. Là.
On s'entend. Là. Mais tu sais, au minimum, avoir une question piège, qui n'est pas piège, si tu connais le domaine, tu l'as. Ça filtre, c'est ridicule. Ton temps perdu est sur le nombre d'entrevues que tu fais parce que les CV sont tous trop beaux. Là.
OK. C'est un sujet intéressant. Là. Richer qui vient de dire le stress, par contre, peut faire jammer du monde. Caro a dit aussi.
Oui, ouais, mais ça, c'est vrai stressé. En vrai aussi.
T'es tellement stressé que t'es prêt à faire une entrevue que tu vas faire sa job.
Oui, mais ça dépend du processus.
C'est pas la même chose.
Le processus de sélection doit fitter avec la job.
Non, le facteur de stress, puis le facteur de stress, c'est drôle, j'ai eu ce débat-là avec quelqu'un sur LinkedIn, jusqu'à temps que je me rende compte que si je me pognais en ligne avec quelqu'un de la Belgique, j'étais comme « Hey, pas productive ton après-midi, Macao! » il chialait. Attends, j'ai un chat dans la gorge, 2 secondes. Donc, il se plaignait, il disait que les processus étaient trop longs, qu'il y avait trop d'étapes, qu'il fallait qu'il rencontre, puis que souvent, la dernière étape d'un processus, peu importe combien d'étapes dans ton processus, la dernière, ça va être d'aller rencontrer les gens au bureau. Puis il disait, je ne peux pas concevoir que c'est cette dernière étape-là, probablement que lui n'a pas réussi cette étape-là, puis il était bien gros parti là-dessus, où il disait, Comment ça que ça peut être les collègues qui déterminent si t'as ta job? Il suffit qu'il y en ait un qui aime pas ta face là-dedans, il fait un commentaire, un coup que tu pars, puis c'est fini, t'as plus la job. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens au travers, ceux que tu as rencontrés, qui vont se positionner comme des alliés, qui vont dire « Ah non, moi, je trouve justement que cette personne-là, elle avait l'air d'être nanana. » Il y en a probablement un ou deux qui t'aimeront pas parce que tu représentes une menace, t'en es peut-être faire leur job mieux qu'eux, mais ça, ça va arriver n'importe quand. Mais si t'as le plus de gens que tu as rencontrés dans ton processus, le plus de chances de te faire des alliés. Puis quand Richer dit « Le stress, ça peut faire jammer du monde », absolument. Le principe de devoir se vendre, et c'est pas tout le monde qui est bon pour se vendre. Là. Moi, souvent, je coach mes experts pour leur dire, je leur fais des questions pour se préparer. Je suis comme, ta technique, tu connais, il n'y a pas de problème. Pose des questions sur l'environnement de travail, c'est quoi les attentes des trois premiers mois. Tu sais, casse la glace de ton bord pour te mettre en confiance.
Puis, tu peux le dire que tu es stressé aussi. Mais le problème, oui, 100%, puis j'en ai qui me l'ont fait souvent, mais le problème, c'est quand tu as un intervieweur qui n'est pas bon à gérer ça. C'est qu'il ne dira pas « Ah, tu as l'air stressé, prends deux secondes » ou tu manages ça aussi. Là.
Ouais, moi, je le dis. Des fois, les gens parlent vite, bégayent. « Hey, on est entre nous deux, il n'y a pas de stress. Prends ton temps. Si tu as oublié des choses, dis-moi-le, garde. »
C'est ça. Puis, un peu pour revenir à ce que Francis disait tantôt au début, quand tu fais l'entrevue, le point, c'est pas juste de voir si la personne a des bonnes réponses ou pas, s'il y a un téléprompteur ou pas. C'est savoir comment que la personne pense. Fait que si tu fais juste répondre au télétrompeur, télépatente, puis tu réponds trop bien...
Les télétobies, là, on parle...
Télétobies, là! C'est du soleil, il sourit trop, là. C'est pour vrai, c'est pas plus bon que quelqu'un qui se pose des questions puis qui fait des erreurs. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui cherche que quelqu'un qui est 100% parfait tout le temps.
Mais oui. La gestuelle aussi. Moi, je suis du genre à lâcher plein de jokes là, pour mettre les gens en confiance. Puis je fais beaucoup d'autodérision parce que si vraiment dans la vie, tu veux mettre des gens en confiance, fais de l'autodérision. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que ça. Là.
L'humour, ça va tellement loin. Là. Quand tu rentres dans la pièce, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu réponds « Oui, je sais ». Des affaires dans la même, c'est comme juste faire rire le monde, ça met tout le monde à l'aise.
C'est toujours ça qu'on me dit.
C'est toujours l'humour, ça, là, ça brise la glace tellement vite.
Oui, surtout l'humour pince sans rire, un peu noir, sarcastique. Tu sais, quand vient le temps de te vendre puis de présenter quelque chose, c'est vraiment la bonne stratégie à adopter.
Ouais.
Ah, mais t'as vraiment l'air sympathique. Je sais, ta mère me l'a dit.
101, ce qu'il ne faut pas faire.
Tabarnam! Je vais essayer de penser au truc qu'on m'a dit en entrevue où j'ai fait « Oh mon Dieu, ça n'avait pas besoin d'être dit. » Je vais essayer d'en faire. Je suis en train d'essayer de me faire le recueil de la recruteur au bout de sa vie parce que des fois, je fais des affaires et je me dis « Mais non, c'est pas ça.
Ça serait écœurant. On a une fille au bureau, nous autres. Elle s'est fait poser une question. C'est quoi ta plus belle qualité? Elle dit « Ben moi, je suis une fille qui est très anale. » Puis elle dit, j'ai toujours été anal. Puis elle dit, moi, c'est mon père qui m'a inculqué ça jeune d'être anal. Fait que là, c'est tabarnak.
Qu'est-ce que c'est? C'est un show analytique, là, mais ouais, quand même.
Fait que là, pour comprendre qu'elle, le français, c'est sa troisième langue, ça a l'air, je ne suis pas très bon en anglais, mais ça a l'air que ça se dit en anglais être anal. J'ai un esprit d'analyse, de synthèse. Oui. Ça se dit en anglais. Fait qu'elle, elle a traduit ça mot à mot. C'est une de tes bonnes qualités. Ah, ben moi, je suis une fille super anale. C'est mon père qui m'a inculqué ça jeune.
I'm very anal. Ça devrait dire que je suis très méticuleux. Il faut tout que je fasse comme il faut.
Ouais.
Là,
ouais, mais en français, quand tu dis je suis une fille très anale, ça veut dire autre chose.
Puis c'est mon père qui me l'a inculqué.
C'est mon père qui m'a inculqué ça jeune.
C'est très. Non, c'est très wrong. Là. J'aime pas où ça s'en va, tout ça. Là. C'est pas la bonne direction.
C'est le genre d'affaires qui pointe dans ton recueil, les pires réponses qui n'ont pas de sens.
Ou quand quelqu'un te réfère, là, ça arrive souvent. Là, que je parle à un client et quelqu'un me dit « Ah, c'est Patrick Mathieu qui m'a référé à toi, il parle en bien de toi. » Là, je dis toujours « J'espère, je vais le payer assez. »
Pour bien que ça serve, ces paiements-là.
Oui, effectivement.
Fait que, on fait quoi avec cet AI-là, là, pour vrai? On démolit ça, on met pas ça en RH ou on se bat contre ou on fait
super, rien? C'est super... j'ai juste le mot en anglais. Là. Selfish.
C'est quoi?
C'est quoi le mot en français? Selfish, c'est
Tu veux vendre des poissons?
Ouais, je veux vendre des poissons.
Tu veux vendre des poissons?
C'est très égoïste, mais si je vous l'ai dit, les gars, ça fait 12 heures que je suis devant un écran. Là. Donnez-moi une chance.
Nous autres donc, aussi, c'est... là, c'est quoi le problème?
Il faut que ça reste un outil. Tant que c'est un outil, ça doit être popé. Ouais. Mais quand ça remplace un bloc de processus, qu'il n'y a pas d'humain qui va jouer là-dedans,
c'est parce que même le problème, c'est je pense qu'il y a des limites. Hein. C'est parce que le problème, le filtre est actif au lieu de juste taguer. Tu perds des candidatures au lieu de dire cette candidature-là, je l'ai taguée moins forte à cause de A, B, C, mais dans la liste, pareil.
Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de QI humain. Il faut qu'il y ait un QI humain derrière. Absolument. C'est pour ça que je l'ai dit de façon égoïste. L'avenir de ça, c'est que les recruteurs, on a encore notre place dans ce monde-là. Puis,
ben oui, 100%.
Les entreprises, les gens qui recherchent, ils ont encore besoin de recruteurs. Pour et de la partie client, de la partie candidat, là, j'en fais souvent des CV. Je dis à des gens, quelqu'un m'écrit, me dit, ça fait 7 mois je me cherche une job. Je check son profil LinkedIn. Puis je suis comme, ben ouais, mais non, mais c'est sûr. Là. Mm. Tu sais, j'en fais travailler des affaires. Là, fait l'humain, encore.
On toujours, l'AI augmente l'humain, il ne remplace rien encore. Ouais. Peut-être le front-end qui va manger une volée éventuellement, mais à part ça.
Ouais. Pour tout ce qui est après ça, de l'analyse qualité, tu n'as pas le choix. Combien de fois je présente des profils qui n'auraient jamais passé des tests d'un ATS, puis pourtant, c'est ces gens-là qui performent le mieux en emploi. Pour en nommer.
Tu sais, pour aller sur le sujet pré-enregistrement de Francis, ce que tu dis, il faut connaître le monde, là, malheureusement. Si tu te fais pas, puis je l'ai fait, là, j'ai appliqué sur des jobs, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai écrit à personne, m'a dit ben oui, une entrevue demain matin.
Ouais.
C'est con, là, mais je te dis pas que ça marche tout le temps, là, mais un message LinkedIn ou un email, des fois, ça passe. Là. Surtout quand tu vois que la maudite job est affichée depuis genre 6 mois, puis qu'ils cherchent encore, puis ils viennent de la reposter, puis à promouvoir encore sur LinkedIn. C'est sûr qu'ils n'ont pas trouvé personne. Écris à la personne, puis ça va aider. C'est sûr, si t'es junior sur un senior, un rôle senior, ça ne marche pas. Là, mais si tu fites
un autre affaire, quand j'avais été mis à pied en 2019 par mon chum, pour qui je travaillais, merci. mais je cherchais un emploi à cette époque-là, puis c'est là qu'on avait décidé là, d'aller tenter notre chance en Irlande, parce qu'il y avait beaucoup de technologies en Irlande. Puis là, ce que je faisais, je regardais LinkedIn, puis il n'y avait pas Indeed, là, mais il y avait un autre système en Irlande que tu disais, tu sais, mais n'importe quoi, là. Hein, tu regardes n'importe quoi. Tu veux une job. Tu vas juste crisser ton CV dans patente, là, puis répondre aux questions. Non. Moi, ce que j'ai fait, là, ça a marché en titi, là. Je regardais les profils LinkedIn des compagnies, puis je trouvais le CEO ou la personne qui serait apte à être intéressée à mon profil. Je leur écrivais, je trouvais leur courriel, puis je leur écrivais directement. Il y avait même deux compagnies en Irlande à qui j'ai envoyé un livre. Je me souviens pas c'était quoi le livre. C'était un livre d'affaires là, qui était super intéressant. Je trouvais ça à cette époque-là, il était vraiment bon, je me souviens pas lequel. Puis je leur avais envoyé le livre avec une lettre écrite à la main. Vous savez, je suis intéressé à leur compagnie.
Je sais où tu habites.
Non, mais j'ai envoyé la compagnie.
S'il vous plaît, le job.
Mais écoute, ça, il répondait. Mm-hmm. Mais de là, moi, là, chercher une job, je ne mettrais jamais mon CV, je n'appliquerais jamais d'une patente à gosse. Je trouverais les personnes contacts, je trouverais leur courriel, puis je leur écris directement.
Je suis 100% d'accord, mais avec un gros bémol, ça marche pour les seniors, pas pour les juniors.
Absolument.
Peut-être, oui. Ouais. D'accord.
Si vous commencez dans le domaine, les seniors.
Ça marche pas, là.
Même pour les seniors, je ne suis même pas sûr parce que dernièrement, il y a un poste qui est apparu. J'ai dit, hey, ça a l'air intéressant, c'est le genre de poste que j'aimerais faire à ma retraite. Donc, j'ai dit, ben, regarde, pourquoi pas mettre mon nom là-dessus? Mais j'ai essayé de rejoindre des gens. Astifi, silence total. Non, nous, monsieur, de manière que ça fonctionne, il faut remplir la demande d'emploi en ligne.
Ouais,
je sais, mais je ne veux pas te faire perdre. Je veux pas te faire. Non, une grosse compagnie privée. Là, je dis, bien, c'est parce que si je ne fais pas là-dedans, je ne vais pas appliquer, je ne vais pas perdre mon temps à remplir ça. Puis, tu sais, puis toi, de ton côté, à lire ça, je veux dire, regarde, y a-tu moyen de parler à la personne qui. Non, nous, ça marche comme ça, il faut appliquer, vous pouvez le faire via LinkedIn. Pis...
Mais tu sais quoi, Francis? Ça, là, c'est un red flag qui dit que tu ne fitterais pas dans cette entreprise-là.
Aussi.
Tu ne veux pas travailler là. Clairement. Voilà.
Confirmé. Mais ça existe même pour les seniors. Ça veut dire qu'il y a des postes de seniors.
Oui, c'est sûr.
Quand même, c'est comme ça, Francis, là, je te gâche.
C'est l'expérience candidat.
Je te gâche, si tu regardes le site de la compagnie, là,
c'est pas.
Ça, c'est les compagnies qui disent « Oh, la culture humaine, là, l'humain est important. »
Comme la famille ici.
C'est comme de la famille. Là, ils te reviennent avec des réponses comme ça. Ça, j'ai vécu ça souvent. C'est comme, ah ouais, belle culture.
Ah non.
Le hey, marketing poche, est bon pour faire du social washing.
Ouais, un show de boucan.
Ouais. Mais c'est ça. Pour les juniors, ça marche moins, mais la réponse, ou le, pas la réponse, mais ce qu'on conseille, c'est de vous faire un réseau de contact. Pourquoi?
Ouais.
Pour tout ce qu'on vient de dire au final.
Ouais. Ouais.
Mais si même junior, si t'es junior, il faut que tu aies le réseau de contact.
Si t'es junior, Pat, tu ne feras peut-être pas à la porte du CIO, là, tu trouves un
Non, c'est sûr. Mais ça aide si tu es dans des événements, si tu as un GitHub avec des projets, si tu as quelque chose. Si tu n'as rien et tu écris, tu dis ben moi, je sors de l'école, je veux une job, mais qu'est-ce que tu veux dire à part ça? C'est dur, là.
Non, surtout pas en sécurité, c'est vraiment rough. Là. J'ai dit, j'en ai plein, moi, qui cogne à ma porte. Puis j'aimerais ça vous aider, mais j'ai pas de job. Des
sécurité
juniors.
N'est pas une job de débutant. Puis les entreprises qui acceptent des débutants en sécurité, il n'y en a pas vraiment beaucoup parce que la manière de faire de la sécurité pour un junior, il faut que tu le mentores. Le trois quarts des entreprises ne veulent pas le faire. Ils disent, ben non, c'est de la perte de temps. Ouais, mais là, tu formes pas la prochaine génération. C'est, oui,
c'est pas de la perte de temps, c'est de l'investissement.
Oui. Mais malheureusement, comme Caro dit, il n'y en a pas.
Ceux qui ont des pratiques de SOC, moi, j'en vois quand même engager souvent des niveaux 1 qui vont déjà avoir, mettons, 2 ans d'expérience, mais un nouveau gradué là, qui, mettons, a fait son cégep et qui est allé faire un bac à Polytechnique en cybersécurité, sort de l'école, veut une job en sécurité, ça va être rough.
Ouais. Là, tu viens de dire le mot, par exemple.
Polytechnique?
Certificat... Non, je veux pas dire oui, mais un genre de certificat. Faites pas ça. Parce qu'en sortant de l'école, ça donne
C'est devenu du marketing. Moi, j'ai été à HEC, je sais comment ça marche à Poly. C'est du marketing. T'sais, on veut mettre le mot cyber un peu partout, puis ça attire les étudiants. Mais il y a demain pour moi qu'il y a des compagnies qui devraient engager des juniors. Il y a des compagnies qui n'ont personne en cybersécurité. Fait que tant qu'à avoir personne en cybersécurité, ouvre-toi un poste de junior, puis mets-toi un junior, il ne pourra pas faire pire que ce que tu fais, là.
Non, ça, c'est sûr. Mais les certificats qui existent au Québec, c'est de la gouvernance. Vous apprenez fuck all en sécurité. Vous apprenez à écrire des papiers et des niaiseries. Un vrai certificat, c'était supposé avoir hands-on. C'est plate à dire, là, puis c'est un shameless plug.
C'est ça.
Sécurité 101, 102, 103 ou ACFES, le commentaire qu'on a le plus, c'est « Hey, j'ai appris plus qu'un certificat de 3 ans à l'université. » En 2 jours.
Patrick, c'est la même affaire pour sécurité physique, 101, 201, 202, machin truc. C'est la même affaire. J'ai des gens qui sont en poste, ça fait 17 ans qu'ils font de la sécurité corporative, sont dans des postes élevés. Ils disent comment ça en gestion des clés? Personne ne m'a jamais expliqué ça. Ben, c'est parce que regarde ton processus, ta carrière, puis où est-ce que tu as été, puis qu'est-ce que tu as eu comme formation. Effectivement, il y a des gros trous en sécurité hands-on. On fait du n'importe quoi.
Hey, Francis, il faut que je te raconte ça. Tu vas te triper solide là-dessus. Mon frère habite d'un tour à condo locatif. Okay? À un moment donné, il descend. Il essayait d'aller dans une section là, pour avoir accès en bas dans le sous-sol, là, dans le garage. Tu sais, c'est toutes les cages là, avec les lockers, là, genre.
Hey, attends-moi un peu, Jack. Là. C'est qui fait sa vaisselle? On dirait que quelqu'un est dans un restaurant. Moi, j'entends.
La table...
Hey, la table numéro 4, là, sont pas contents de la cuisson de le steak. OK. Là, j'ai l'impression que Gordon Ramsay va passer dans une des images à un moment donné. On va voir passer Gordon Ramsay en arrière de quelqu'un. Là.
Vas-y.
OK, je m'excuse, Jack.
Mais c'est ça. Là, à un moment donné, il était en bas dans le garage. J'avais toutes les cages. Puis là, il voulait aller dans une cage chercher, là, je sais pas quoi, là, pour brancher sa voiture électrique ou je sais pas quoi. Il avait besoin d'accès à quelque chose. Fait que là, le concierge de l'édifice, il y a un bureau en bas là, d'une cage. Fait que Philippe, il va là, il y a un cadenas sur la porte de la cage. Mais le cadenas, il n'est pas barré. Fait que il ouvre ça. Puis là, il y a un gros coffre, là, une affaire qui est sur le mur là, avec toutes les clés. Philippe, il ouvre ça. C'était pas barré. Toutes les clés de tous les condos accessibles à n'importe qui dans le garage. Et Philippe me comptait ça, puis j'étais comme, ben voyons donc. Je pensais à toi tout de suite, là, je disais, hein, imagine, là. Oui.
Ah, c'est poche, là, mais
mm-hmm.
C'est plate. La base n'est pas tout le temps là. Non.
C'est pour ça que quand tu es en condo, on ne respecte pas le règlement de condo. On donne toujours une fausse clé à la copropriété. De toute façon, si on se peut s'en servir en cas d'urgence, ben, pète-la à la porte en cas d'urgence. Ouais. Et s'il arrive de quoi, je dirais, ah, je m'excuse, c'est vrai. J'ai changé la serrure dernièrement, j'avais oublié d'envoyer la nouvelle clé.
Yep.
Ouais, moi, mon frère, il a mis une serrure électronique là, qui peut débarrer de n'importe où dans le monde, puis il y a une caméra, puis tout ça. Fait que là, si quelqu'un est là, il dit, pourquoi tu veux rentrer? T'sais, comme moi, si je décide d'aller à son condo pendant qu'il est en voyage, je le teste, il m'ouvre la porte. Hein, c'est... Puis il a mis ça. Là. Il n'y a personne qui rentre dans son appartement, moi, qui débarre.
Ah, c'est une bonne idée. Fait que,
en passant, je veux juste dire, Caro, on parle de TI, petit bas de sécurité, puis tout ça, là, mais pour travailler avec plein de PME dans toutes sortes de domaines, là, c'est le même mot du problème dans tous les domaines.
Ah,
là.
Ben oui.
Tout le monde a de la misère à trouver des bons employés. Là, c'est fou. Là.
C'est pour ça que les recruteurs, on est encore pertinents. Encore plus les agences de recrutement comme Talenti, c'est mon temps de faire une shameless plug.
Ben oui.
Spécialisé dans les postes en sécurité. Honnêtement, 2025, à date, c'est la première année où, je sais pas, probablement 90% de mon chiffre d'affaires va être avec des postes en cybersécurité.
What?
Nice. 2025 ou
2026? Que Talenti va ramasser aussi la sécurité physique.
Ben oui, il faut.
Besoin d'un verre. Verre d'eau.
Non, mais sécurité au sens large, là, ça serait le fun. Faudrait, Caro, qu'on t'invite à venir faire un tour dans une des associations des IS à Montréal à un moment donné. De toute façon, plus dans le coin de Montréal, je pense.
Oui.
Bon. Fait que, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand monde de bon, on dirait, dans ce milieu-là pour le recrutement. Puis il y a du n'importe quoi qui arrive. Là, fait que quand on a des bonnes
compagnies, dès que tu tombes en...
ça serait bien.
Dès que tu tombes en spécialisé, c'est tough.
Oui.
Et voilà.
Tu sais, ça m'a pris du temps à les acquérir, ces connaissances-là, mais maintenant, là, quand je prends un mandat avec un client, dépendamment à qui je parle, je challenge. Là. Quand je vois, l'autre jour, j'ai reçu une description de poste, il y avait 5 postes dans une description de poste. J'ai écrit à mon client, je dis, je m'excuse, il va falloir qu'on se parle, ça ne marchera pas. Je ne peux pas te trouver un DevOps, un sysadmin, un network system, quelqu'un qui fait de la... T'sais. Puis on s'est assis ensemble en Teams, puis on a refait sa description de poste. Je dis, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Parce que ça, je ne pourrais pas te le trouver.
Ben, tu peux, mais c'est 800 000 pour une personne, c'est un peu chiant.
C'est ça. Mais quand tu es rendu à avoir une... Parce que même les recruteurs seniors, on parle d'experts en TI seniors, mais les recruteurs seniors, c'est la différence entre quelqu'un qui a l'expérience du domaine versus quelqu'un qui arrive et qui... Je me souviens, là, ma première journée, il a fallu que j'apprenne c'était quoi la différence entre du JavaScript et du Java. Là, on n'est plus là.
C'est clair.
Je l'ai encore, hein? Ça fait pas loin de 10 ans que je travaille avec ça devant moi. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, fudge.
J'avais l'air d'un hamburger, là.
Ouais.
C'est un hamburger. C'est un
burger.
Ouais, à cause de ton blur. Exactement. C'est à cause de mon blur. Ouais, mais là, c'est parce que c'est le bordel dans mon bureau. Je peux-tu enlever ça, ce blur-là?
Oui, dans les options.
Dans les options. Une minute. Effet.
Si on va passer Gordon Ramsay.
Non, j'ai fermé la porte, mais je peux vous le montrer. Par exemple, j'ai une package de lui.
Nice.
Tu le vois?
Ouais, cool.
Là, Francis, tu veux-tu voir Gordon Ramsay? Check ben. Il a droppé ça dans mon bureau.
Un burger?
Fait que je pourrais dire à mon chum qu'il a déjà fait une apparition dans la French Connection.
Dans la French Connection, la petite fille Gordon Ramsay. Avec les nouvelles poêles en vente chez Costco.
Bref, tout ça pour dire que ce petit burger-là, il m'a tellement servi dans mes débuts. Fait que aujourd'hui, je les connais toutes ces technologies-là, mais je le garde pour me rappeler que...
Là, faut-tu le fasses dans un cadre, là. Ouais. Pas ça dans une feuille, mais ça au mur, comme il faut.
Quand même, hein? Parce que là, en ce moment, c'est juste avec du scotch tape sur mon mur.
Non, ça marche pas, ça. 20 piastres, come on.
OK, c'est bon, je vais le mettre dans un cadre. Bonne idée.
Yes.
Fais ça...
C'est hot, ça. Bien, ouais, fait que c'est ça. Fait que au niveau des plus gestionnaires, Francis, c'est dur d'avoir un rôle senior, mais le problème aussi, c'est que les seniors en place, ils connaissent pas tout ça non plus. Là. Fait que quand tu es l'expert et tu veux un rôle à quelque part, puis c'est avec l'exemple de Caro, là, c'est pour ça que je m'en vais là. Ben, s'ils font un rôle de 5 personnes en une, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expertise. C'est ça qui est dur. Puis dans la majorité des entreprises qui n'ont pas d'experts déjà en place, il faut qu'il y ait un expert qui fasse leur entrevue pour eux ou au minimum leur description de poste, etc. Là. Fait que c'est un cercle vicieux. Là. Fait que tu as quelqu'un qui n'est pas expert, qui cherche quelqu'un puis qui dit n'importe quoi dans la description. Dans les entrevues, c'est sûr, c'est pas bon non plus. Puis la bonne manière, c'est d'avoir des consultants qui aident à faire les entrevues, à faire des descriptions, à gérer au niveau RH comme Caro.
Allô?
Soit mix et tout ça, oui.
C'est parce qu'il faut que ça parte, comme n'importe quoi en sécurité, il faut que ça parte d'en haut. Okay?
Ouais.
C'est sûr que quand tu as un CSO, qui est le chum de l'autre qui est en place, un CISO, c'est la même affaire. Ils ont de l'expérience dans le sens que c'est son quatrième poste de CSO ou de CISO. Et quand tu regardes, là, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas, oui, ce sont des gestionnaires de haut niveau, mais la direction de ces gens-là, ils ne sont pas capables de les évaluer en sécurité. Fait que si tu as quelqu'un qui a mal été évalué en sécurité, qui n'a pas d'affaires là, ben on se retrouve de l'autre côté que comment ils vont faire eux autres pour engager du monde performant. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on en parle, puis on en a déjà parlé. Moi, je suis plus capable de voir des officiers de police, là. Des officiers, Sûreté du Québec, police de Montréal, name it. Quand ils prennent leur retraite, ils s'en vont directeur de la sécurité dans diverses organisations. La police, en général, c'est poche en sécurité. Puis l'exemple que je donne à mes étudiants est toujours la même. Il y a un voleur qui sort avec un sac d'argent. Il sauve de la caisse populaire ou de la banque, puis il traverse une rivière, puis il échappe le sac d'argent. Le sac part à gauche, le bandit part à droite. Si c'est une police qui court après, à part de quel bord? À part après le bandit. Si c'est un expert en sécurité, il part après quoi? Le sac d'argent. Parce qu'en sécurité, on protège l'actif. Ça ne nous intéresse pas de courir après les bandits. Fait que les seules polices qui sont bonnes en général en sécurité puis qui comprennent, qui ont le thinking, ce sont en général des gardes du corps. Pourquoi? Parce qu'eux ont été formés à protéger l'actif. Les autres ont l'habitude de protéger la personne qui le protège. Et le bandit qui tire dans la foule, il ne s'en occupe pas. Lui, il protège l'actif. Ils ont ce thinking-là. L'autre exception, c'est les gens qui ont des formations. J'ai passé une entrevue il y a quelques années à un moment donné, puis quelqu'un me dit « Hey, comme ça, vous êtes policier, on aime ça. » J'ai dit « Ouh! » En entrevue, je dis « Non, on ne va pas commencer ça comme ça, là. C'est pas sensible de donner des points. » Fait que la personne en entrevue dit « Je ne comprends pas, monsieur, une police, c'est… » Non, c'est l'inverse, là. Je m'assis ici, tu me rencontres comme candidat parce que je suis policier, je devrais partir avec une strike. Là ça va être à moi de venir définir pourquoi je suis bon pareil en sécurité. Et ça, il faut faire très, très, très attention. C'est pas aussi limpide qu'un pompier retraité qui s'en va travailler pour de la prévention incendie au privé. C'est une continuité logique. Pour un policier de faire le saut en sécurité, c'est pas bon. D'ailleurs, des trucs comme ASIS et SAS, ils ont même un comité du law enforcement, la liaison law enforcement, pour aider les policiers à faire la transition au privé pour qu'ils comprennent que ce qu'on s'attend de eux au privé, ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils faisaient au public. Tu comprends? Même quand le bandit sauve, ça fait quasiment ton affaire parce qu'il va peut-être attaquer ton compétiteur. Puis en cyber, c'est la même chose, hein? Dans le CISSP, il y a une question d'éthique là-dedans, dans le CISSP, qui dit « Regarde, si tu n'es pas obligé, laisse-les partir, le hacker. » Parce que là, si toi, tu as résisté à l'attaque, tu sais ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, tu es capable d'améliorer ton système pour qu'il soit encore plus résilient la prochaine fois que ce genre d'attaque-là va avoir lieu. Et si tu ne l'as pas pogné, puis sa prochaine cible, c'est ton compétiteur, tu es rendu avec un hacker qui travaille gratuitement pour toi. Non, mais c'est ça. Si tu es obligé légalement, oui, ça, c'est correct, là. Mais il faut comprendre que le rôle de la sécurité corporative, c'est de protéger des actifs. On n'intervient pas sur la menace.
Pour dériver un peu ton sujet avec une question, puis Richer, dis-moi ce que tu en penses, là, mais est-ce qu'un responsable de la sécurité, que ce soit CISO ou CSO, doit être un expert en sécurité ou on s'en fout? Ça peut être un gouverneur, un MBA, un admin?
Ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend. Il faut que tu aies quand même un certain niveau de connaissance, là, mais...
Donc quelqu'un qui connaît ça. Ouais.
Oui, mais c'est ça. Mais je ne sais pas c'est quoi les définitions pour un CISO exactement. Mais
responsable d'un programme de sécurité. Tu montes un SOC, tu montes la gouvernance, tu montes en place la sécurité applicative.
Dans ce sens-là.
Sécurité, c'est quoi? Tu es le responsable de toute la sécurité de l'entreprise. Est-ce que tu es un expert dans le domaine? Ou tu connais le domaine, ou tu sors d'un bac en MBA, en admin, puis toi, tu es correct là-dedans.
Tu as besoin d'avoir des connaissances pour comprendre, pour savoir à qui déléguer pour ce que tu ne sais pas. Autrement, tu peux tout le faire toi-même si tu le sais. Autrement, il faut que tu saches déléguer aux bonnes personnes.
Oui, quand tu le sais puis tu le fais toi-même, tu es généralement dans une start-up puis tu es la première personne en sécurité. Ouais. Fait que tu es un engineer security. Là, genre.
C'est ça, tu fais tout. Tu fais tout.
Tu fais tout. Oui, excuse.
Il n'y a pas beaucoup de rôles en cybersécurité qui vont t'apprendre à faire un plan de continuité des affaires, ce que généralement, c'est porté par le CISO. C'est une partie qui relève du domaine des affaires. Fait que c'est pas parce que tu travailles en SOC ta vie, dans un SOC toute ta vie, que tu peux devenir CISO puis que tu vas avoir ce que ça prend aussi pour être CISO.
Ça va dans les deux sens. Hein? Ouais,
ben
ça.
Oui.
Mais il y a de la terminologie de base. Quand tu parles à un gestionnaire en sécurité, que ce soit en sécurité de l'information, que ce soit en cybersécurité, sécurité physique, peu importe. Puis, il n'est pas capable de t'expliquer la relation entre un actif, une menace, une vulnérabilité et un risque. Là. Il n'est pas capable de t'expliquer ces quatre affaires-là, comment ça marche ensemble.
S'il n'est pas capable de faire ça, c'est game over, on s'entend. Là.
Patrick, il y en a comme ça.
Ben, je sais qu'il y en a comme ça.
Mais non, là. Mais, tu sais,
Non, mais
je vais dire des gros mots. J'ai des compagnies qui m'appellent, là, et. Hey, allô, Francis, on a besoin de toi. Ah ouais, comment ça? Bien, on a identifié plusieurs risques, puis on aimerait que tu identifies les vulnérabilités associées à ces risques-là. Attends un peu, OK? Tu me dis, hey, on vient de faire 50 pizzas. Asti qui sont hot. On aimerait que tu choisisses le fromage à mettre dessus. Qu'est-ce si ta pizza est finie? Le fromage est déjà fondu. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux pas avoir identifié un risque si tu n'as pas identifié la vulnérabilité. Parce que le risque, c'est quoi? C'est les actifs avec les menaces, avec les vulnérabilités. Le risque, c'est une résultante. Ça se fait trouve moi, pas un risque. Là. Tu peux pas fouiller dans ton bureau pour trouver des risques, ça n'existe pas. Non, c'est une résultante.
Mais mon point, c'est que si tu es un CISO ou un CSO, puis tu sais pas c'est quoi une injection SQL,
pas d'affaire là non plus. Tu es dans l'espace, intersidéral, tu sais, je veux dire, c'est pas là. Que... On te demande là, pas de connaître le détail, mais...
T'as burné ce que je voulais dire, mais c'est la majorité des CISO au Québec, il n'y en a pas un sacrement qui est technique, là.
Il y en a qui le sont.
Non, il a...
j'ai pas dit.
Moi, je viens d'en recruter un pour mes clients.
Il y en a, là, mais la majorité,
Caro.
Oh, Libine.
Caro, t'as combien de CISO qui sont des vrais CISO? Parce qu'un CISO, il fait de la sécurité physique, il fait du filtrage de sécurité. Non, un CISO, ça ne fait pas de la cybersécurité.
CISO, c'est cyber. CSO, c'est tout.
Oh, non.
C'est ça.
CSO, c'est le Chief Security Officer. Il fait tout ce qui est sécurité. Mais le CISO, par définition, et même quand tu fais des certifications comme les CSSP, c'est quand même très clair. Le CISO, il est responsable pas des systèmes d'information.
De l'information,
il est responsable de la sécurité de l'information. Alors, oui, Francis, il devrait s'occuper de s'assurer qu'il n'y a pas de micro caché dans la salle, etc.
Tu viens de le primer, Pat!
Je sais. Bien, tu as raison sur la description, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ce que tu viens de dire.
Non, c'est pour ça que je dis qu'on a des ciseaux qui ne font pas ça.
Pat,
Francis, oui, vas-y.
C'est-à-dire qu'en dessous de ton ciseau, il devrait aussi avoir un head of cyber qui s'occupe vraiment plus du volet cybersécurité, où lui va être technique, il va pouvoir supporter son ciseau sur le volet technique. Mais le ciseau,
il devrait avoir une branche physique et une branche cyber. Ben oui.
Puis en dessous de ton ciseau, tu devrais avoir un directeur de la sécurité physique aussi en dessous de ton ciseau.
Exact.
Mais ton ciseau devrait avoir une vue holistique de la régine.
Oui. Mais c'est supposé pas d'avoir ta gouvernance qui est très proche parce que c'est toutes les policies, les contrats, blablabla. Ta cyber, ta physique, puis l'élément que tout le monde oublie, la fraude. Tu sais, la fraude chez Desjardins, c'est un
équipe à part. Il y en a des départements de risque et de fraude de plus en plus dans les entreprises.
Mais ils ne sont pas en lien avec la sécurité cyber quand 99% de l'entreprise est cyber. Ça fait mal.
Ben, c'est parce qu'on travaille, on est tous sectionnés, on est tous segmentés.
Exact.
Ben non.
Ben non, mais
je sais que les opérations... Et la sécurité, c'est à part.
Ouais.
Hey, ma pression monte, Stifi, je vais aller prendre...
Si tu veux starter Francis dans la vie, là, parle-tu, tu
dis qu'il n'y en a pas de sécurité physique.
Non, mais regarde...
Dis que les CISO s'occupent de la sécurité physique. Tu veux partir Francis dans la vie? Non, j'ai ça.
Non, mais...
Check, il devient rouge,
parce là. Non, mais je viens rouge certainement, Stifi. Là, je vais redonner un exemple, parce que c'est encore que je donne depuis belle lurie. J'ai l'impression de me répéter... Au MCN, Asti, il fallait faire une mise à jour de Java, de je ne sais plus trop quel Asti de cossin software. On pouvait faire rentrer 10 gars en temps supplémentaire en pleine nuit pour régler ça. La porte de sécurité qui donne dans la salle des serveurs, elle bat au vent parce que la serrure est pétée. Ça fait 4 mois qu'elle bat au vent parce que ça, c'est le service des immeubles, puis la sécurité physique. Puis... Ben oui, mais c'est de la sécurité de l'information. Là, la disponibilité de ta salle des serveurs, s'il y a un clown qui rentre par la porte, s'il décollisse tout, là, il y a un problème, là. Ouais, mais c'est pas le même département. Nous, on met des buts. Nous, on achète des problèmes. Aucune vision holistique, puis après ça, on se fait défoncer. On va avoir la chance d'en reparler au Hackfest, là, les stations de filtration des eaux. Là ça fait 3-4 fois là, qu'on a des belles attaques cyber. Là qu'est-ce qu'ils vont faire les villes? Oh, vite, hostie, il faut investir en cyber. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses une évaluation de menaces et risques sur le sens du bon sens. Puis ton évaluation de menaces et risques, elle va te dire, as-tu un problème d'employés corrompus? As-tu un problème de cyber? As-tu un problème physique? As-tu un problème que le monde va domper les toilettes chimiques dans la rivière? C'était ça, une évaluation de menaces et risques. Mais là, parce que le mot cyber est à la mode, watch bien ça. Toutes les villes vont investir. Hey, là, on a mis des coupe-feu sur nos filtrations. Vous n'avez rien compris. Je suis fatigué. Ah, mais je suis brûlé de répéter ça.
Tu vois, moi, je vais faire mon recueil de recruteurs au bout de ma vie. Francis va pouvoir se faire un recueil au bout de sa vie dans pas longtemps aussi.
Je suis déjà au bout de ma vie, esti Caro. Je suis dépassé. Tu sais, la date d'expiration, là, je suis déchu. Tu comprends-tu, là?
Oui, mais la question est-ce que t'es comme un yogourt, on peut te consommer après la date, ou t'es plus comme genre...
C'est best une before. C'est pas plus bon, c'est qu'il est très joli.
Ça dépend si t'aimes les moissures entre les orteils. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, là.
Hey, Jacques, parle-nous donc de l'Espagne. Il faut switcher ce sujet.
T'es très silencieux, j'aime pas ça.
Parle-nous de l'Espagne, mon
Jacques. De quoi? De l'Espagne, oui, OK. Ouais, je suis ça depuis ce matin, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça fait comme un film d'espion. Il y en a beaucoup qui savent, là, j'ai une petite place dans mon cœur pour l'Espagne. J'aime ça aller là, on s'en va encore passer un mois là, cet automne. C'est que je suis un peu la politique là-bas. Pedro Sanchez, le président, c'est gauchiste, progressiste au bout, là, puis la corruption qui tourne autour de lui. Ben là, on parle de hacktivism. Hein? Alors là, il y a un groupe de cyberméchants algériens qui s'en prend aux Marocains, parce que les deux pays sont en chicane. Et là, tout le monde, j'imagine, a au moins entendu parler là, de l'invasion marocaine dans le territoire espagnol de Ceuta. Donc, Ceuta, c'est un territoire espagnol, mais qui est quand même sur le continent nord-africain. Là, il y a des dizaines de milliers de Marocains. Là, on ne parle pas de réfugiés. Il y en a qui disent que c'est des réfugiés. Non, on ne parle pas de famille là, avec des femmes et des enfants. C'est tous des jeunes hommes, là, qui rentrent là-dedans par dizaines de milliers. La violence qui se passe là-bas, là, c'est fou, je suis ça. Il y a une infirmière qui était dans les médias qui ont ramené une petite fille de 10 ans à l'hôpital qui avait été violée à répétition par ces gens-là. Ah. Des histoires d'horreur qui sortent de là et Sanchez ne fait absolument rien. Donc, on a ce groupe-là qui vient de dire que... on se souvient de Pegasus, hein, le fameux logiciel israélien là, qui avait beaucoup de compromissions là, de politiciens et de journalistes. Ben, apparemment, Sanchez, justement, son téléphone personnel avait été infecté avec ça. Puis ils ont quelque chose comme 2,7 gigaoctets de données, là, de conversations avec des autorités marocaines qui pourraient prouver que ça y a été comme impliqué là, puis qu'il n'y a rien fait avec les Marocains pour permettre cette invasion-là. C'est ce qui commence à sortir. Fait que là, ce matin ou aujourd'hui, là, ce groupe-là a sorti et ils ont dit à Sanchez, ils ont dit, là, tu as 72 heures pour démissionner, sinon, on va publier tout ça. Fait que... On attend, mais c'est de voir l'extorsion politique qui se fait via ça. Là, c'est le jeu de est-ce que c'est vrai qu'ils ont tout ça? Est-ce que c'est vrai que ça peut être des données compromettantes? Je trouve que c'est comme je disais ça ce matin, là, tous les articles qui viennent de le passer, là, la Gazeta.es. C'est fascinant. Pour moi, c'est comme un film d'espion. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer là, dans 2 jours à peu près. Là.
Ah!
Ouais, c'est fou ce qui se passe.
Ça va bien dans le monde, hein?
Les Européens, puis d'ailleurs, ouais. En Espagne, ils ont ce qu'ils appellent des régions autonomes. On va dire c'est comme des provinces. L'Andalousie, ça en est une, puis tout ça. Puis à chaque région autonome a sa journée dans l'année. Puis justement, le 2 septembre, c'est le Dia de Ceuta, la journée de Ceuta, justement. Le 2 septembre, à travers l'Espagne, il y a des manifestations qui sont prévues pour aller dans la rue. Là, tous les Espagnols vont sortir pour supporter Ceuta et demander la démission de Sanchez. Puis eux autres, là-bas, ce qu'ils crient dans les rues, là, c'est drôle, c'est hilarant. Là, c'est Sanchez, hijo de puta, tu sais, fils de pute. Là, puis écoute les chants d'un match de soccer dans la rue, dans les manifestations. Fait que, on arrive une semaine après, mais honnêtement, là, on était là le 2 septembre. Je pense que je serais allé faire partie des manifestations. Mais c'est fou. C'est le fun de regarder ça. Puis j'ai hâte de voir si les super méchants vont gagner cette bataille-là.
Et puis, je sais qu'il y a une ou deux autres nouvelles, mais je pense que celle qu'il faut parler, c'est les caméras Flock, là, le désastre aux US, beau bordel. Là, il y a eu une nouvelle. Ah, il y en a une à Montréal, il y en a une à Montréal. C'était pas une caméra Flock, évidemment. Là, on a toutes parties à rire. Hein, les médias qui disent un peu n'importe quoi. Mais il y a une belle enquête là-dessus, puis il y a beaucoup de discussions éthiques qui s'en vient parce que Flock et autres, ça s'en vient ici. Là. Puis il faudrait sortir dans les rues aussi, comme en Europe, là, pour ce genre de trucs-là. Il ne faut pas que ça arrive. Puis je suis le journaliste là, qui dénonce Flock aux US, Ben Jordan, qui explique qu'il existe la technologie pour faire correctement des caméras. Puis tu me diras ce que tu en penses, Francis, mais le problème aux US, c'est qu'ils ont fait un réseau, une application qui offre à tout le monde. Fait que tout le monde qui a accès à l'application peut voir presque tout, sans autorisation, avec de la journalisation très moche. Ils ont commencé à mettre des caméras pour lire les plaques de licence là, dans des gyms d'enfants qui font une petite fille de 5 ans qui fait de la gymnastique et sa caméra. Puis là, tu avais l'employé qui espionnait ça. Ils mettent ça dans les parcs. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Puis là, ils sont dans les nouvelles. Puis ils disent « Ah, moi, j'ai créé l'entreprise pour aider les enfants puis les kidnappings, puis blablabla. » Puis ça, c'est une vidéo d'aujourd'hui. Puis le gars dans la vidéo, il met la première entrevue du CEO. Puis il dit « Moi, j'ai parti l'entreprise parce que c'était le seul sujet qui m'intéressait puis que j'allais faire un monopoly avec ça. » Puis beaucoup d'argent. Fait que tu vois que le gars, c'est un crosseur A à Z. Mais là, même la sécurité n'est pas là. Tout est disponible publiquement ou presque. Je veux dire, je suis assez proche de cette entreprise-là. Le CISO en place n'a aucune connaissance en informatique presque. Puis il s'en va dire qu'ils n'ont jamais été piratés. Toutes les caméras ont été piratées. Fait que là, ça s'en vient au Canada. Oui, ce qui a été mis à Montréal, c'est une Genetech. C'est pas en tout la même affaire. Mais la tech existe pour avoir des caméras que le feed de caméra est chiffré. Si on va en scène police, le juge vient un mandat pour avoir la clé pour déchiffrer. Toute la tech existe. Il n'y a pas un sacrement qui vend ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de contrat là-dessus. Flock est loin de là. Je ne sais pas si Genetech est là-dessus, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là si vraiment il y a des caméras à être utilisées là-dedans.
Ben, on voit tout ce qui se passe avec la guerre commerciale. Les politiciens qui sont en train de virer fou. Boycotter US. Et on voit la semaine dernière le SPVM qui annonce là, qu'ils vont mettre des caméras corporelles sur tous les policiers, des caméras Axon américaines, une compagnie là, qui est basée.
Là, ils n'ont pas confirmé ça encore.
Ils n'ont pas confirmé, mais oui, tout ce qu'ils montraient, là, ça s'en est vers ça.
Puis, ça s'en est, j'espère que ce ne sera pas ça.
Ben, j'ai appris un petit peu de choses sur Axon, puis c'est plus. Quelqu'un m'expliquait, c'est pas une compagnie de ils n'ont pas un département de marketing autant qu'un département de lobbying. Sont reconnus aussi pour leur taser, apparemment. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont voir les corps policiers, comme la SPVM, ils disent « Hey, achète des tasers là, à 7 000 chaque, on va te donner les caméras corporelles.
Ouais. »
Là, ils donnent des caméras corporelles, mais là, ce qu'ils disent pas, c'est que dès que tu payes sur le piton pour enregistrer, « Oh, là, ça commence à coûter cher. » Fait que les corps policiers, à un moment donné, ils s'aperçoivent là, que « Wow, attends un peu, on n'enregistrera pas tant que ça. » Pourtant, on a des compagnies canadiennes ici là, qui font des caméras, là. Hein?
Oui, il y en a plein. Il y en a à Québec, à Montréal.
À Laval. Une compagnie à Laval qui fait des caméras extraordinaires. Fait que, puis la plupart des caméras, en passant à caméras corporelles, ils enregistrent sur l'appareil. Fait que si le bandit ou s'il se passe de quoi, il pogne l'appareil, détruit l'appareil, toutes tes preuves sont parties. Ceux que je parle, là, ceux qui sont à Laval, c'est streamé en temps réel via LTE au commandant là, ou au poste de commandement. Fait que si quelqu'un prend la caméra et la détruit, pas grave, là, la vidéo est rendue déjà là. Mais non, on va acheter potentiellement des caméras américaines. Je vais voir comment ça va se dérouler. Là, ça serait comme gênant pour le SPVM, à mon avis, d'aller acheter des caméras américaines à me contacter.
Ben, en tout cas, toi, cette semaine, ça serait un peu un mauvais choix de dire ça.
Mauvais timing.
Très mauvais.
Ça serait un mauvais timing. Puis là, vous me devancez un peu parce que probablement que la semaine prochaine, je vais sortir des publications LinkedIn là-dessus. De un, oui, l'histoire des caméras, c'est un enjeu présentement, 40 millions. Il y a d'excellentes caméras canadiennes, européennes. Il y a d'autres choses qui se font avec les Américains. Les Américains, ce qu'ils vendent.
C'est québécois,
ça? Il y a
Roman, ouais.
IO Nodes, je pense, au Québec, qui en fait. Il y a Axis Communication, qui est suédois, je pense, qui en fait. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Celle des États-Unis, c'est parce que tout est interrelié. Exemple, dès que tu sors ton taser. Ah oui, tu sors ton taser de son étui. En sortant le taser il envoie la commande à toutes les caméras partir. Même si c'est un autre corps de police qui n'est même pas sur ton réseau. Si tu sors ton taser, ça envoie l'information aux autres caméras qui sont sur le site. Partez votre enregistrement. Fait qu'il y a beaucoup d'intégration. Mais le problème, c'est très, très propriétaire. Fait qu'une fois que tu es pogné dans cet écosystème-là,
Okay? Tu es pogné avec la sécurité de ce système-là qui est très.
Tu es pogné avec la sécurité. Puis là, dans le cas qui nous occupe présentement, imaginez qu'on augmente les tarifs, etc. Donc, il y a des gros enjeux là-dessus. Pour les caméras Flock, tout ça, bon, Flock, faut comprendre que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait avoir plus de caméras et on devrait y avoir accès. L'enjeu qu'on a eu aux États-Unis, c'est que comparativement au UK, ici, les caméras, on est passé de « on n'a pas de caméras, c'est poteau » à « il y a plein de caméras partout, c'est poteau ». Ce qui est pas arrivé au UK, il y a eu une progression, les gens se sont habitués, ils ont vu les avantages, les inconvénients, ils se sont adaptés, ils ont une longue historique, ça s'est fait graduellement. Tandis qu'aux États-Unis, là, c'est comme « il n'y a pas de caméras, il y a des caméras partout ». Là, on va avoir la même chose à Montréal, même si ce n'est pas Flock. Il faut comprendre que dans ce qui a été présenté par la ville, ça n'a pas été beaucoup cité par les médias. Hein. Il y avait trois plans, ce qui a été cité par la ville. Là. Il y avait des caméras corporelles, il y avait l'histoire d'interpellation, là, si jamais tu as envoyé chier la police ou un employé municipal, uh-huh. Soit étiquette. Puis le troisième, c'est un espèce de comité consultatif sur les interceptions. Mais dans les caméras, il y en a pas un qui était écrit tout petit. Puis les gens ont passé à côté. La ville veut mettre en place un registre public des caméras privées. Et ça, c'est quand même cool, mais ça a passé un petit peu en dessous du radar. Ça, grosso modo, c'est tous les gens qui ont des caméras à maison, à le porte d'entrée, il y a une EFI, une ring, n'importe quoi de cossins qui ont dans leurs entretoits, ils vont pouvoir donner accès au SPVM. Ils vont pouvoir dire, moi, là, je partage mes informations, je collecte. Premières informations que je partage, c'est que j'ai des caméras, puis où est-ce qu'ils sont, puis aussi partager le feed jusqu'à un certain point. Là, je n'ai pas les détails, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Mais aux États-Unis, Ring offre cette opportunité-là. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là. C'est voisinage Ring en anglais. Là. Puis grosso modo, c'est que tes caméras Ring, toi, tu dis, nous autres, notre quartier, là, moi, je suis dans le petit quartier, là, je dis n'importe quoi, là, la petite patrie. Là. Bien, nous autres, dans la petite patrie, là, on a 254 caméras Ring. Fait qu'on a décidé que ces caméras-là, on les rend 100% disponible à la police. Fait que c'est un choix des citoyens de la rue de dire, moi, je rends mes images disponibles. Fait que là, il y a des gens qui disent, ben là, les Américains sont contre les caméras Flock. Il faut faire très attention. Il y a quelques Américains qui sont contre. Et présentement, le mouvement aux États-Unis, il est de déployer des caméras en communauté et de les rendre accessibles. Donc, on est dans cette direction-là. Et ici, au Canada, ben, on n'est pas encore là. Ici, on est encore que Ça me dépasse. Là. Je vais encore venir rouge et Caro va rire de moi. Mais tu sais, présentement, là, tu vois un voleur de colis Amazon sur tes caméras, là, tu le vois. Tu vas voir la police et ils disent on n'a pas le temps d'enquêter ça. Des vols de colis à 40$, on n'enquête pas ça. Fait que tu dis OK, ben je vais remettre mes images disponibles sur Facebook pour que les autres ils me le trouvent, c'est qui le crosseur. Ben là, la police, elle dit quoi au Québec? Faites pas ça, monsieur. Vous exposez à des poursuites civiles. Puis c'est-tu moins là où on est mou avec les criminels? Il y aura un débat de société à avoir. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces caméras-là? Les lecteurs de plaques, effectivement, ça garde beaucoup d'informations.
Parce que les textes sont mal faits, c'est comme j'expliquais. Là, parce que là, les lecteurs de plaques lisent les faces. Tout le monde qui est alentour des voitures, les voitures à sens inverse, ça lit toutes. Si, quand tu enregistres ça, c'est à l'infini. T'as bien beau avoir une rétention.
Je vais donner un exemple d'une affaire que moi, j'adore. Puis ça m'excite. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est pas correct de penser de même.
C'est clair.
Au lieu de mettre des photos radar là, un peu partout, là, au lieu de mettre des photos radar, là, tout de bas à patente, là, à la sortie de Montréal, tous les ponts, tu tu mets un lecteur de plaque à la sortie de Montréal. À l'entrée de Québec, tu mets des lecteurs de plaque. On pourrait facilement demain matin dire, ben, c'est facile, tu es parti de Montréal à telle heure, tu es arrivé à Québec à telle heure, on fait la moyenne de ta vitesse, bang, ton ticket. Ouais, mais je t'ai arrêté manger une poutine. Bien, si t'es arrêté manger une poutine, ça fait juste faire que ta vitesse moyenne, elle a baissé. Il n'y a rien dans la vie qui ferait que ta vitesse moyenne va augmenter en haut de la limite. C'est impossible. Donc ça, là, tu veux que ça roule 100 km/h sur l'autoroute 20? Ça, c'est facile à mettre en place.
Non, mais moi, je ne veux pas rouler 120 à 100
km/h. Ah, ben 60, 140,
ça fait de ça. Petits infractaires!
Ben, là, je veux au moins rouler 112, là!
Non, en bas de 120, c'est dans le champ, là.
Si on dit que c'est 120, c'est un choix de société rendu là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de quoi de beau à faire avec cette technologie-là. Moi, j'ai trouvé sur un projet pour les alertes en vert.
C'est ça le problème. C'est ça le problème que c'est pas beau.
Moi.
Mais tu sais vers où ça va le point d'après? La même chose que dans la pandémie. Ils vont contrôler où c'est que tu as le droit d'aller, qu'est-ce que tu as le droit de faire, à quelle heure tu as le droit d'y aller. C'est là
ils
qu'on
vont commencer
va.
À taxer pour l'utilisation des routes. Là. Ils vont savoir que tu es allé où. Puis
ils vont taxer en plus parce que tu utilises la route. Ils l'ont fait durant la pandémie. Ils vont le faire plus tard. Ils t'ont empêché d'aller au resto sans une petite carte QR. S'il y a des caméras, puis il y a un contrôle dans ton char, les chars électriques, ils vont dire à telle heure, tu n'as plus le droit.
Oui, mais Patrick, on ne s'entendra pas parce que moi, la petite carte QR pour rentrer au restaurant, j'étais crissement content qu'ils mettent ça en place. Tu comprends?
Pourquoi? Ça a été prouvé que ce n'était pas invalide. C'était abusif.
Ça a été prouvé par après, mais en sécurité, il y a une affaire qu'il faut toujours appliquer. C'est la règle du bon père de famille. Ça veut dire qu'on est toujours mieux en sécurité de faire la même plus de précautions.
Tu dis que tu veux faire pire dans le futur. Tu le sais que ça n'a pas été bon dans le passé.
Je ne veux pas faire pire dans le futur. Oui, moi, ce qui m'écœure, c'est que quand tu mets un photoradar à Drummondville, je ne sais pas trop, je ne sais même pas s'il y en a là. Tu mets un photoradar à Drummondville, tu vas pogner le monsieur puis la madame qui roule 125, puis qui était juste distrait, puis qui n'ont pas vu le photoradar.
Oui.
Le kid qui roule 160 km/h, 180 avec son Audi modifié, là, lui, il sait en crisse, il est où le photoradar. Lui, il ne se fait jamais pogner. Ben, c'est sûr que si tu mets un photoradar à sortie de...
Oui, mais Ginette qui roule à 65 sur l'autoroute, il ne marche pas ton système. Ginette à 65 sur l'autoroute cause des accidents, tu comprends?
Oui, mais on ne peut pas tout régler. Il faut commencer quelque part.
Exact. Fait que tu ne veux pas une tech qui pousse vers du contrôle de surveillance d'État. Ça n'a pas de sens.
Pas que les gouvernements qu'on a.
Ah, tabouin, s'il vous plaît.
Bon, on pourrait être dans d'autres pays que ça serait bien pire que ça.
C'est pas ça le point, Francis. C'est que là, tu es en train de dire, j'accepte ça, puis on s'en va dans la direction des pires pays. C'est ça que tu dis. C'est ça qu'on a eu la preuve.
Il y a le déploiement d'une technologie. Tu as
l'intention, tu as le déploiement qui est tout croche au Québec, puis tu as le résultat qui est pire. C'est ça le Québec.
Qui va coûter cher.
Qui va coûter cher. Mais même sans l'argent, tu as des. Si, c'est qui gère, là. Peu importe c'est qui, on s'en fout du parti. Ils vont mettre des règles poches.
Pas une job au gouvernement.
Non, j'en veux pas. Merci. Dépression totale. Non, merci.
Ouais, mais il faut regarder qu'on vit quand même dans une belle démocratie. Je veux dire, ça pourrait être pire.
Ouais.
Et moi, je suis très, très. Sérieusement, je trouve ça poche, notre politique actuelle. Tout ça.
Oui,
mais ça reste qu'il y a d'autres pays, c'est crissement pire. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des affaires qu'il va falloir qu'ils se mettent en place. Les alertes en bas, les caméras, sérieusement, c'est sûr qu'on sauverait des vies d'enfants avec ça. Parce que.
T'as-tu vu les métriques Flock aux US? Flock, là, dans les 5 dernières années, comme tu as expliqué, ça l'a grossi. Là, c'est une affaire de millions de caméras en 2-3 ans. Le taux de crime, eux disent qu'ils vont régler le crime aux US, a diminué de 0%. Fait que c'est pas vrai que tu vas en sauver 2-3 vies, c'est vrai, mais tu vas perdre plus de vies privées que tu vas sauver de vies. Beaucoup, beaucoup plus.
Oui, probablement, mais moi, je me dis, à partir du moment que tu te promènes en auto, de dire que c'est privé que j'ai passé sa rue...
C'est pas ça le problème. La rue
Ontario à 2 heures.
Non, là, il y a des personnes qui marchent, il y a des vélos, il y a des personnes dans le building à côté dans la fenêtre. Non, c'est pas ça le problème.
Pour moi, tu n'as pas de vie privée quand tu te promènes sur le coin de la rue avec ton auto. Là. Pour moi, ça, c'est.
Ben, tu peux
on
avoir,
mettre une caméra là et filmer.
Mais le point, c'est que si moi je marche pour aller au dépanneur, le gouvernement le sait. Puis demain, il peut dire tu n'as pas le droit d'y aller à cette heure-là. Parce que la caméra est là. C'est pas une affaire de licence de plaque, c'est une caméra.
je suis d'accord avec toi, mais pour reprendre un discours qu'on a déjà eu, moi, je pense que technologiquement parlant, on n'aura pas le choix, on s'en va dans cette direction-là. La seule décision qu'on aura comme
société... Ça marche pas, Francis. Comment tu fais un programme de sécurité avec des métriques? Les métriques disent que moins de crimes puis tout va mieux depuis les 50 dernières années. Pourquoi tu ferais pire aujourd'hui?
Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'il y a beaucoup
c'est de même ça marche, les métriques. Pourquoi tu mettrais une technologie invasive pour des métriques qui n'existent pas, qui demandent des technologies invasives?
Je ne te dis pas qu'il faut les mettre. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire
qu'il y a des...
Oui, il y a certaines affaires que oui, je trippe à les mettre. Moi, par exemple, là, quand ils ont mis en place les zones, par exemple, neutres dans les postes de police, qui ont mis des caméras pour les échanges Facebook, etc., c'est un excellent choix.
Ouais.
Moi, au parc, à côté de chez nous, s'ils mettent des caméras qui sont enregistrées, Chris, mettez-en des caméras. Ça va tasser un tapon de pédos qui vont gosser des enfants dans le parc. C'est sûr que moi, je ne vais pas chialer. Filme-les, mon enfant. Mon enfant, il n'est pas tout nu, Chris.
Mais tu l'as vu le résultat au US que ça fait. C'est ça qu'ils ont fait. Ben, les pédos s'en servent. Parce qu'ils sont où, les pédos?
Les gens mal intentionnés vont toujours trouver une façon de profiter de quelque chose qui, à la base, avait des bonnes intentions. Ça, c'est dans
tout. Mais les policiers, c'est les pédophiles au US. Les gouvernements, les personnes en ville, c'est eux qui espionnent les enfants dans les parcs. C'est ça qui se passe, là. Il ne faisait pas avant, il n'y avait pas la tech.
Non, ouais, mais c'est
le pédophile, qui il filme avec son téléphone assis dans le parc. C'est quoi la différence avec qui se connecte sur un fille dans le direct?
Partez-moi pas, c'est lunettes qui enregistrent le monde en plus, là. On est encore ici à 10 heures.
Oui, mais mon point, c'est qu'il faut tout bannir ça.
Oui, mais mon point que je te dis, Patrick, Patrick, c'est qu'on gongera pas. Fait que là, la question, tu sais, il y a un principe qui dit « If you can beat them, join them ». Non, 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 t'abandonnes pas. Tu dis « Je vais me positionner pour m'assurer de donner une chance à ce que ce changement-là se fasse correctement. »
S'il y a 20 millions de caméras demain matin...
Avec cette chaudière.
On essaie de... S'il y a 20 millions de caméras demain matin... Francis, s'il y a 20 millions de caméras demain matin au Canada, tu ne joindras pas le club, là. Il est trop tard.
Patrick, on n'ira pas là. On n'a même pas les moyens de remplir les nids de poules. Ils n'installeront pas des caméras.
Il s'agit que Brookfield, au Canada, investisse dans les caméras. Tu vas voir, ça va arriver. Même ça marche. Un lobby, c'est un lobby.
Je te dis pas que c'est impossible. Mais moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que si ce train technologique-là se met en route, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de l'arrêter. Alors là, la question, ça va-tu être...
C'est ça, mon point.
Est-ce qu'on essaie de limiter les dégâts ou... On peut. Je veux dire,
il ne faut pas proposer des technologies invasives.
C'est ça le problème que Patrick essaie de dire, c'est que, je ne sais pas s'il y a l'expression en français, en anglais, on dit « it's a slippery slope ».
Oui, mais elle glisse en
sacrament,
celle-là.
C'est une pente glissante, effectivement.
Mais faut pas l'encourager, il faut mettre de l'huile dessus.
Oui, mais là, Patrick, demain matin, tu penses-tu que ça peut passer à l'échelle nationale de dire les téléphones cellulaires, il n'y a plus de caméras. Les lunettes avec des caméras, c'est fini, c'est interdit au Canada. 100%. Les montres intelligentes, c'est fini au Canada. Ça passera jamais, quand même qu'on essaierait de se battre tout puis moi là-dessus.
Non, mais il n'y a pas de gouvernement
qui est mort, puis on n'aura rien changé.
C'est la seule option. Le
gouvernement est élu démocratiquement. Fait que si le peuple, il en veut, lui, le peuple, il capote, il aime ça.
On est un gouvernement qui est où? Tu sais, quand tu as 30 % de la population qui vote, puis sur ce 30 %-là, il y en a à peine 30 % qui votent pour le gouvernement en place, là, on va se calmer.
On en passera, là, OK? Ouais. Pas de démocratie.
La pointe d'attente est petite, là, on s'entend, là. Mais il n'y en demeure pas moins que quand tu parles aux gens, si tu lui dis on va t'enlever ta caméra sur ton téléphone, on va t'enlever tes lunettes, il y a du monde qui capote, il y a du monde qui.
Ils
oublient le téléphone à la maison, ils sont obligés de prendre des pilules parce qu'ils font de l'anxiété parce qu'ils ont oublié le téléphone à la maison.
Oui, mais tu as le même discours inverse. Le monde ne sont pas au courant. Fait qu'il faut que tu prennes des décisions pour eux autres. Mais c'est ça ta démocratie, c'est ça ton point. Fait que si la démocratie décide ça, ils sont capables de faire ça. Puis tu sais, l'affaire avec l'âge standard, là, les enfants sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. La source du problème, c'est les Facebook de ce monde. On punit les enfants, on ne punit pas Facebook. L'Europe commence à les punir, là, ils font ça comme faux, eux autres. Mais ici, au lieu de dire « Hey, arrêtez d'investir chez Facebook », on investit dans Facebook.
Non, mais on ne vient pas en plus de décider qu'on enlevait des taxes à Netflix, là.
Ben oui.
Fait qu'on est très loin de voir les méta, là.
Si, ouais. On dit n'importe quoi, là.
On est très, très, comment on dit ça? conciliant. On est très, très gentil avec.
Elle est commodément raisonnable, mais à tous les niveaux. Là, super raisonnable.
Ah, mais ça a l'air que c'est notre belle langue française qui a fait qu'on a décidé de se tenir à bout.
Non, mais c'est même pas vrai, ça non plus.
Mais ça a l'air que c'est pas vrai non plus. Hein.
Mais non, c'est pas vrai.
Quand j'ai lu ça hier,
j'étais
là, ben oui.
C'est ça le problème de la transparence de notre gouvernement. Là, personne ne sait ce qui se passe. Quoi. C'est
même les médias ne le savent pas, puis ils disent ça. On se tire dessus dans le pied. Fait que tout ça, ben, Caro, merci d'être venu dans un épisode débile mental où ce qu'on se crie après, c'est hot.
C'est le fun, hein? c'est l'effet qu'on fait, nous, les recruteurs.
Yes.
Je vous aime.
Ben oui, c'est vrai, nous autres aussi. Richer, je te laisse finir ça. T'as pas assez parlé, fait que t'as au moins 20 minutes.
Non, je te laisse. 20 minutes? Oh mon Dieu. Je vois Jacques qui est en train de s'endormir. Je pense que je vais.
C'est carré,
Je vais tenir secours. Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant, le débat là-dessus. Je suis pas complètement. Je suis pas d'accord, mais je commencerai pas avec ça. Mais oui, donc, c'est. Il y a tellement de choses à faire, puis qu'on veut avancer, mais en même temps, on est vite à pouvoir décider ou chialer sur quelque chose. C'est facile de juste chialer, tu sais, d'être les, comme on dit en anglais, c'est les, c'est quoi, c'est les Monday, quoi, les
personnes qui quarterback, ont... hein.
C'est en plein ça, c'est moi chialer.
Hein.
C'est comme ceux qui s'assoient, le monde qui vont être dans les chars, qui vont chialer en arrière là, pour la conduite des autres. Là. C'est facile de faire ça, mais en même temps, d'avoir des changements de société... C'est pas évident non plus. Donc, il y a des accommodements à avoir, oui, je suis d'accord. Mais il va falloir voir qu'est-ce qui est quand même raisonnable là-dedans. Mais parce qu'on peut aller d'un bord comme de l'autre, mais c'est pas mieux. Mais bon, donc je recommence
pas le débat. Le point, Richer, c'est que ça serait le fun qu'il y ait d'autres mondes que juste nous autres qui débattent de ça. Il n'y a pas un maudit média.
C'est aller plus loin. Oui, mais je ne sais pas s'il y a une façon de pouvoir pousser le débat un peu plus. Pour que ça puisse se faire. Ça, c'est une chose.
Soit clickbait, je ne sais pas.
clickbait, oui.
Ça vend des clics.
On va aller faire de la pêche. C'est
ça qui est plate pour elle.
Parce qu'en réalité, je veux dire, on prêche pour notre paroisse, là, comme c'est là. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que je veux dire, on parle. Mais d'avoir des changements, s'il y avait possibilité de pouvoir faire d'autres changements qui étaient plus loin, je ne sais pas comment. Mais je pense que ça serait important que ça puisse arriver. Là. On a besoin de parler plus. Mais bon, donc tout ça pour dire qu'on va finir ça là pour aujourd'hui. Je pense qu'on va aller se coucher. Il commence à être tard. Là. Fait que, il commence à être tard pour moi aussi. Là. Tout le monde va coucher dans pas longtemps, une demi-heure à peu près. Fait que tout ça pour dire que over and out.
Merci tout le monde. On se revoit super. Bye.
Ciao.
Bye, merci.
Bye.
Bye-bye, toujours un plaisir. French Connection.